Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Je me suis dit, mais il n'y a pas de pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que c'est la seule chose que je peux faire, dans laquelle je suis heureux. Je pourrais faire d'autres jobs, mais je serais pas content. Je sais qu'il y aurait ce truc dans ma tête et je serais pas heureux si je le faisais pas. Donc je préférais à un moment donné même être dans la merde, etc. et me dire, ben voilà, je fais ça. Et même ma mère me disait, mais arrête et tout, nanana. Je disais, mais je peux pas faire autre chose. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas faire autre chose. Une fois que j'ai accepté le fait de me dire, gars, c'est ta passion. En fait, la scène, c'est ce que t'aimes. Le cinéma, c'est ce que t'aimes. Quand t'as ça dans ta tête, c'est impossible de retourner sur un autre taf. Impossible. Si je me retrouvais dans un bureau à faire des trucs rédac chef dans une agence de pub, je pense que je me serais flingué.
Cet épisode aurait pu s'appeler « Je ne suis pas le Paul Mirabel du cul », mais j'ai décidé de rester sobre et distingué, à l'image de mon invité de cette semaine, l'humoriste et chroniqueur de France Inter, Alexandre Kominek. Alex est suisse, il a fait ses premières blagues en 2012, le même soir qu'une certaine Marina Holman. Et 5 ans plus tard, il a débarqué à Paris pour présenter son premier spectacle « Bâtard sensible » que j'ai pu voir il y a quelques semaines, et c'était complètement fou, c'était surprenant, c'est à plein de moments, je me suis dit que c'était fabuleux qu'on puisse dire des trucs pareils sur scène, donc je vous le conseille grandement. Et dans la foulée de cette représentation, on s'est posé avec Alexandre dans les bureaux de l'Iconoclaste à Paris pour parler de plein de choses, de comment son personnage de scène a évolué, donc de comment il est passé de quelque chose d'assez consensuel à un style beaucoup plus brutal et sincère, d'où sont les limites en humour et de ce qu'on a déjà pu lui reprocher, de quand il a quitté ses études et qu'il s'est endetté pour venir à Paris où il a galéré pendant plusieurs années avant que ça ne commence à fonctionner, de pourquoi il est autant obsédé par le fait de vivre des choses et de sa peur du temps qui passe. J'espère que ça vous plaira. Il paraît que ta mère a fait Montreux avant toi.
Ouais, elle a fait surtout un meilleur premier Montreux que moi.
Ouais,
parce qu'en fait, j'avais participé à un concours qui s'appelait Joke Nation à l'époque, que Guillermo Guise avait fait. Et chaque gagnant de pays francophone venait avec son parrain pour participer au gala. Et donc moi, mon parrain, c'était Thomas, Vizorek avait ramené Guy, et puis on était plusieurs comme ça. Et ma mère, vu que c'était mon premier gala à Montreux, je l'avais invité. Et il y a un humoriste australien qui faisait de l'absurde, un peu des trucs à la Chaplin, et qui choisissait quelqu'un au hasard pour participer à son numéro dans le public. Et évidemment, sur 1600 personnes, il tombe sur qui ? Sur ma mère, qui se prend à l'impro et qui rentre dans son impro et qui en fait même trop. Mais donc, qui clairement a un applause à un moment donné. Et ce qui était fou, c'est qu'à la fin, il y a un mec qui vient signer une décharge pour les droits d'image ou un truc comme ça. Il dit « Mec, tu te rends pas compte, c'est incroyable, la meuf du public, elle s'appelle comme toi. » Je dis « C'est normal, c'est ma mère. » Et à la fin, tout le monde disait bravo à ma mère et moi, c'était cool pour une première. Ouais, c'était assez ouf.
C'était vraiment pas bien, toi, ou
c'était incroyable. Cool. Non, c'était cool, mais c'est juste que ma mère, elle est montée 3 minutes sur scène et puis c'était pas attendu et puis elle a fait marrer les gens, quoi. Et puis surtout, elle l'a mis en galère, l'autre, parce que il lui proposait des impros, elle disait non. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'impro, mais je crois que dans les impros, il faut justement jamais dire non à la personne. Elle était clairement là-dedans. Donc ouais, c'était assez particulier. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que moi, je venais de finir mon numéro, j'étais trop content, mon numéro, mon sketch, et je rentre en loge dans les cuisines avec les techniciens pour fumer une clope, boire une bière. Et il y a Thomas Wiesel qui vient dans la cuisine et qui me dit « Mec, il y a ta mère sur scène. » Et moi, vraiment, réflexe, je dis, mais ta gueule, fils de pute. Enfin, c'est, ouais. C'est une vanne.
Ouais, toi, ta mère, elle est sur scène.
Ouais. Merde. Et là, je regarde l'écran et je vois ma mère sur scène. Donc, ouais, ma mère a fait montrer, ouais. Ça, c'est ouf.
Comment tu t'es retrouvé à faire du stand-up?
Alors, ça, c'est vraiment ma première scène, je l'ai faite par. À cause ou grâce à des potes. En fait, en soirée, ils m'annoncent, on était en train de boire, on était en before, et ils m'annoncent qu'ils m'ont inscrit à un open stage à Genève, dans un bar que je connais très bien. Et moi, au début, je dis non, c'est mort et impossible, etc. Donc, ils m'ont dit, bon, t'as pas le choix, il y a à Lausanne. Donc, je suis allé à Lausanne pour essayer le truc quand même. Et c'est d'ailleurs le même jour...
Que Marina,
ouais. Ça, c'est ouf, on s'est rencontrés le même jour. Et elle avait un peu les mêmes raisons que moi, je crois, qu'elle voulait pas jouer à Genève parce que, voilà. Donc, elle a préféré bouger à Lausanne pour au cas où si on bide, c'est à Lausanne, quoi.
Et j'ai lu que t'étais intéressé par ça depuis un petit temps et tout, mais t'osais pas trop essayer?
Ouais, parce qu'en fait, je me trouvais pas... Enfin, c'est-à-dire, pour moi, il y avait les professionnels et puis il y avait les gens qui étaient un peu marrants, mais je me trouvais pas légitime de le faire, ouais. Je trouvais que soit t'étais une star, j'avais pas cette conscience de qu'en fait avant d'arriver à faire un zénith, tu fais des petits trucs pourris et puis qu'en fait c'est normal d'être pourri au début. Pour moi les gens c'était tout de suite des superstars. Comme j'adorais Eli Kaku etc, je voyais un mec qui jouait tellement de trucs et que moi j'avais pas du tout le même talent et j'arrive pas à jouer autant de trucs.
Toi tu joues Carlos.
Voilà, moi j'ai 2-3 personnages à mon arc et puis je comprenais pas mais finalement j'y ai pris goût, ouais.
Et la première scène, c'était comment?
C'était génial.
Ouais,
c'est ça le problème. C'est qu'en fait, je suis arrivé à ma première scène et je me rappellerai toute ma vie. Je vois des mecs qui avaient déjà fait quelques scènes avant et qui avaient une confiance. Ils couraient, ils faisaient les cons sur scène avec le micro. Et moi, je me disais, mais comment ils peuvent être aussi détendus, quoi? Je tremblais au bar. Et finalement, j'arrive sur scène et je fais mes premières blagues et tout. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que je dois l'avoir encore, hein, quelque part, ce premier sketch. C'est que je suis pas du tout le même personnage qu'au début, quoi. Au début, je ne bougeais pas, quoi. J'étais vraiment, je faisais de l'humour noir. J'avais des blagues, tu vois, d'humour noir et machin. J'avais des punchlines comme ça, mais je bougeais pas. Mais je m'en rappelle que la première phrase que j'ai dite, j'ai eu un rire. Oh, ça m'a rendu ouf. Et après, ça s'est vraiment super bien passé. Et je suis sorti, je tremblais, quoi. J'ai écrit à tous mes potes. J'ai pas dormi, j'ai peut-être dormi 2 heures la nuit, hein. C'est tellement j'étais excité, je voulais le dire à tout le monde. Et c'est d'ailleurs le même soir que j'ai rencontré aussi Thomas, qui à la fin, lui, était déjà là depuis 1 an, qui m'a vu et qui m'a dit avec grand enthousiasme, « Mec, c'était vraiment cool. » Donc ouais, première scène comme ça. Première, super.
Du coup, la deuxième était
horrible. Deuxième, bien aussi. Troisième, je me dis, « Bon, vas-y, on fait du neuf. Hein. »
Les classiques.
Ouais, et puis, évidemment, vu qu'Alexandre, il prend la confiance, il y a une meuf qui kiffe bien de venir le voir, qui vient avec une copine à elle, et puis, Alexandre, il prend un bide, hein. Mais un four, Et à la fin, je me rappelle, elle est partie, elle a fait genre, elle m'a pas vu, et.
Oh non!
Ouais, non, mais c'était terrible. Ça m'a bien remis les pieds sur terre, ouais.
Oh wow.
Mais voilà, il fallait écrire. Bon, après, c'est vrai qu'on avait tous tendance à écrire du neuf, enfin, pas tous, mais. Vu qu'on jouait une fois par mois en Suisse, tu vois, une fois à Genève et une fois à Lausanne, dans les mêmes lieux, moi j'avais dans les mêmes lieux, je parle de la Suisse, je reprends tout de suite l'accent, c'est fou. Et en fait, j'avais honte de revenir avec le même texte à chaque fois. Donc on a accumulé plein de textes. Donc en fait, j'ai eu un premier spectacle assez vite, mais qui n'était pas du tout travaillé. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai vu des gens dire, ah ouais, donc en fait, les gens, ils peuvent jouer les mêmes 10 minutes pendant 2 ans, d'accord.
Plus, hein.
Ouais, même plus, ouais. Même plus.
Du coup, t'as eu une heure avant Bâtard Sensible?
Oui.
Ou t'en as eu plein, oui. Mais qui n'étaient pas vraiment des spectacles brandés
Voilà, j'ai eu un premier spectacle avec toutes mes premières blagues. Je crois qu'il manquait même 20 minutes, donc j'ai fait 20 minutes de nouveau dans le spectacle. Après, j'ai fait Bâtard Sensible, mais Bâtard Sensible, en fait, on avait gardé le titre, mais il a complètement changé. Enfin, c'est-à-dire à 90%, c'est plus le même. Je l'avais en 2017. Et après, j'ai changé parce que je parlais beaucoup de rupture, d'amour et tout machin. J'ai complètement changé le truc. Parce que je me suis en même temps aussi découvert un peu mon personnage, mon univers. J'ai trouvé mon clown. Et en fait, ça m'a changé toute mon écriture. Parce qu'au début, vraiment, je bougeais pas beaucoup, je jouais pas. Et en découvrant, en fait, ce dans quoi j'étais le plus à l'aise, bah, ça a changé tout mon répertoire de blagues.
Et comment t'as découvert ce dans quoi j'étais plus à l'aise ?
Alors, en fait, il y avait... je jouais un soir à Genève et le soir, on sort avec un pote et vraiment, on se met une race. Pas possible. Et j'arrive dans une soirée un peu bresson. Je commence à parler à une nana, une brésilienne. Et il y a un brésilien qui arrive, s'il nous écoute, qui arrive et qui nous propose de faire un after chez lui. Et donc, je vais avec mon pote. Et puis, bon, bah, dans l'after, ça part un peu en couille. Ça se déshabille, ça machin. Le mec me roule une pelle. C'est la première fois que je roule une pelle à un mec. Et mon pote qui était là, oh gros, t'es sérieux, ce que tu fais là et tout. Je dis, ouais, on s'en bat les couilles et tout. Et bon, la soirée, elle est très loin. Et ensuite, le lendemain, je devais jouer. Le lendemain, je devais jouer. Et en fait, j'arrive sur scène. J'étais mort en plus. J'étais gueule de bois, pas possible, mal de tête. Puis j'arrive dans un comedy club et on me dit, t'es le dernier. Je dis, oh là là. Mais par contre, t'as open bar. Je dis, bon, bah vas-y, autant tuer le temps, je vais au bar, je reste au bar. Et je me mets une race pas possible. Et déjà, quand je monte sur scène, les gens voient que je suis alcoolisé, parce que je rigole bêtement. Et je regarde les gens et je dis, vous savez quoi ? Je devais vous faire un sketch, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Et en fait, j'ai raconté ce qui s'est passé la veille, parce que l'histoire était assez folle. On s'est retrouvés dans cet after, moi je me retrouvais à coucher avec cette nana, devant le mec et mon pote. Puis le mec, il voulait choper mon pote, parce que mon pote est très musclé. Et donc, c'était vraiment, en fait, il y avait moyen de rigoler sur l'histoire, plus faire des accents, plus faire des persos, plus, donc, j'ai vraiment fait tout ça, mais comme un pote chaud en soirée qui te raconte une histoire, quoi. Mmh. Et putain, ça cartonne. Et le lendemain, donc, gueule de bois sur gueule de bois, je me réveille, je me dis, putain, mais je reçois plein de messages, des gens qui me disent, oh là là, c'est incroyable et tout. Et je me dis, mais si je dois être autant alcoolisé à chaque fois que je monte sur scène, ça va être chaud. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les gens, ils ont senti que ce que je racontais était vrai. Et ils aimaient, je pense qu'ils ont aimé ce côté, oh, l'histoire de ouf. Il y a un mec qui vient nous raconter une histoire de ouf.
Et avant, tu disais pas les trucs vrais ? C'était plus des trucs pour choquer
Si, mais c'était plus, on va dire, c'était plus consensuel. C'était plus... En fait, bah, quand tu commences un peu, je sais pas si toi, tu as eu ça, mais moi, quand je commençais, je visais vraiment... mon but, c'était de faire rire les gens. Donc, je disais, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que les gens rigolent ? Qu'est-ce que... Tu vois, je cherchais les trucs de... C'est tellement ça. Tu vois, les gens disaient, putain, c'était... Et maintenant, en fait, je suis passé dans un... C'est tellement ça, mais que les gens... Enfin, ils osent pas le dire. Tu vois, donc... je reçois souvent des messages après spectacle où il y a des gens qui me disent, putain, en fait, on a la même vie, machin, mais on n'ose pas en parler. Mais au début, c'est vrai qu'au début, oui, j'étais, bon, bah, tu vois, mon ex m'a largué, donc je faisais des blagues là-dessus, nanana. Un truc plus, voilà, plus consensuel que de bouffer une chatte devant un gay et son pote, quoi. Tu vois, c'était fou. Je te jure, je me confie là, mais c'était fou, hein. C'était fou à un moment donné quand j'étais là avec la nana. Et que j'étends de ses jambes et que derrière, j'entends mon pote qui dit « touche-moi pas », parce qu'il parlait à l'autre, qui essayait de le choper, quoi. Et après, il était là « bon, si c'est comme ça, Alex, moi, je me casse, hein ». Et bah, je me rappelle de la porte qui claque. Et, et ben moi, j'ai fini par coucher avec cette fille qui était super. Et le lendemain, on s'est fait réveiller par... Il nous a pressé un jus de pastèque avec des...
Avec ses cuisses. Avec...
En plus, alors tu sais quoi, tu rigoles. En plus, il fait énormément de fitness. Je le croise de temps en temps à Genève et tout. Je l'adore. On est devenus très potes. Et il fait que des squats. Donc il a des cuisses et un boule, mais genre exceptionnel. Mais c'était fou cette histoire. Quand le mec, on est arrivé chez lui en deux secondes, il s'est mis en string. J'ai pas. Et puis il avait l'air très très heureux de nous voir. Donc tu vois, quand tu arrives sur un plateau où il y a les gens qui te font des blagues sur, je vais caricaturer, mais le métro, truc, et puis toi t'arrives, tu te dis, bah moi hier j'ai vu un mec en string qui bandait pendant que je bouffais la chatte d'une meuf, what the fuck. Donc après je me dis, évidemment c'est peut-être pas un créneau hyper populaire, mais c'est ce qui a touché les gens, et en fait c'est ce qui me fait le plus marrer aussi, c'est que je fais ce métier pour raconter des trucs qui me font rire à moi.
Mais t'as dû... parce qu'une fois que t'es sobre,
ouais,
il faut continuer à assumer ce que tu dis.
Oui, oui, c'est sûr. Ah ben, de toute façon, tout ce que je dis, je l'assume. Ben là, je suis complètement sobre. Hein, non, mais après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils me voient sur scène, ils pensent que je suis comme ça vraiment tout le temps dans la vraie vie, genre méga intense, méga truc. Mmh. Et donc non, je fais quand même une part entre ce que je raconte sur scène. Mais en fait, c'est libératoire. La scène, c'est comme si je confessais mes péchés. Donc, je les confesse, on va dire, de manière un peu rock'n'roll. Et je me sens bien. Et après, je suis vidé, en fait. À la fin des spectacles, je suis vidé parce que j'ai beaucoup donné, mais aussi, c'est parce que j'ai l'impression de m'être purgé, quoi. D'avoir avoué plein de trucs.
Mais ça veut dire que les gens ne voient que la version de toi la plus zinzin.
Je pense, ouais. C'est vrai.
Ils n'ont pas une fausse image. Enfin, tu vois, je suppose qu'en une heure, tu racontes ce qui s'est passé sur genre 15 ans.
Ouais, ouais.
Donc, ouais, ça donne l'impression que... Genre, par exemple, le fait que t'es hyper romantique, ça, je l'ai pas vu venir, quoi.
Ouais, bon. C'est vrai que, oui, je suis... Parce qu'en fait, surtout qu'on s'attache... comme tu l'as dit, c'est un concentré de trucs et il y a beaucoup d'images, surtout dans le spectacle, quoi. Il y a beaucoup d'images visuelles où, en fait, on retient ça au lieu de retenir le petit cœur qui bat au fond de moi, mais ça me dérange pas que les gens me voient comme ça. Parce qu'en même temps, après, il y a une sorte d'image et au final, les humoristes, on est quand même des putains de produits où les gens, ils se disent, bon, voilà, on sait ce qu'on va voir, quoi. Tu vois?
Mais t'as pas peur de te lasser de cette image-là et de pas avoir, enfin, tu vois, d'avoir du mal à t'en détacher?
Alors, pour l'instant, non, parce que c'est à petite échelle. Enfin, tu vois, je me dis, j'en suis pas là, tu vois, à marcher. Je suis pas Paul Mirabel, quoi. Je suis pas le Paul Mirabel du cul.
Eh ben, le titre, il est là.
Non, mais ouais, là, je me dis, là, tu vois, là, je pense que si je marchais dans la rue, effectivement, elle me disait, oh, gros, lui, c'est le mec qui prend de la coke avec des putes. Ouais, là, peut-être que ça serait compliqué.
Pendant que tu te balades avec ta mère.
Mais ouais, là, ça serait compliqué. Effectivement, là, ça serait, mais bon, là, tu vois, même les gens, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que même les gens qui aiment ce que je fais, ils viennent un peu discrètement vers moi. Il y a un truc un peu de mec qui rentre dans un vidéoclub pour prendre une cassette de cul, quoi. Tu sais, ils sont là, ouais, à part ça, je sais qui vous êtes, j'adore ce que vous faites. Ils sont pas là, oh, Alexandre Cominec, on peut faire une photo. C'est un peu discret, quoi. Donc, bon, franchement, non, ça va pour l'instant.
C'est un guilty pleasure.
Apparemment, ouais, c'est bien.
Qu'est-ce qui te fait marrer, toi?
Qu'est-ce qui me fait marrer? Ah, j'ai un peu... C'est fou. J'aime les trucs. J'aime beaucoup tout ce qui est pas consensuel, tout ce qui. J'en parlais avec Mourad Winter, tu vois. On s'est regardé des spectacles, des trucs, même des blagues et machin, et on se dit c'est marrant, c'est drôle. Hein. Il y a des trucs, c'est très drôle. Il y a des trucs, j'avoue, c'est drôle, mais ça me fait pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que s'il y a pas à un moment donné un truc où tu me dis waouh, c'est. S'il y a pas cet effet genre un peu choc. J'aime aussi les trucs honteux. En fait, quelqu'un qui parle de honte. C'est pour ça que j'aime beaucoup genre Jim Jeffries ou des trucs comme ça, c'est qui lui quand je l'ai vu au début quand je commençais, il parlait de trucs, je me dis putain mais on peut parler de ça, de cette honte, de se retrouver dans des états pareils et j'aime bien ça quoi. C'est, je pense que c'est vraiment ce qui me fait rire. Après, je peux avoir un truc complètement j'aime aussi ce qui m'est complètement différent. Par exemple, un Julien Santini, ça me fait hurler de rire. Parce que
mais c'est fou. En fait, c'est juste la surprise tout le temps.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est ça qui me fait rire. C'est la honte des gens qui osent la confesser. Et puis la folie, j'aime les gens un peu, tu vois. Ils se posent pas la question de s'ils vont choquer, si les gens vont comprendre ce qu'il fait. Parce que Julien, par exemple, Santini, c'est vraiment pour moi le bon exemple de ça, quoi. C'est qu'il y a des gens, de temps en temps, ils se disent, mais quoi ouais. Et après 4 minutes, 5 minutes, ils partent en vrille parce que.
Parce qu'il y a que ça à faire.
Ouais,
sinon,
c'est ça.
C'est horrible.
Sinon, ça va être très long. Ouais.
Et toi, aussi, Thomas Wiesel m'a dit que t'étais encore plus blacklisté des soupers d'entreprise de Suisse que lui. Parce que des fois, tu faisais des blagues de ton spectacle à des quinquas qui n'étaient pas préparés.
Ah ouais, oui, on avait eu ça.
Et genre, des fois, les gens, s'ils ne rentrent pas dans ton délire, ça doit être
horrible.
Atroce.
Ah, moi, c'est horrible. Mais en fait, c'est pour ça qu'aussi, c'est compliqué même de mettre... Bon, on a fait des plateaux, tu vois, des plateaux d'humour dans des repas d'entreprise. Donc, c'est vrai que si... Thomas, lui, c'est le boss, tu vois. Lui, c'est vraiment c'est le goat là-dedans. Il arrive en 15 minutes, il écrit 20 000 vannes sur l'entreprise. Toi, t'arrives, bon, je vais parler...
Je vais baiser un tabouret.
Je parle de samedi soir ou de mardi en after. Et c'est vrai que oui, il y a eu des incompréhensions totales. Mais après, ce qui est marrant, c'est que maintenant, et je pense aussi grâce à la radio, mon public a vachement vieilli. C'est-à-dire que j'ai vraiment un public qui va de 25 à 65 ans. Et les gens qui viennent, quand je vois des têtes blanches, tu vois, des têtes grisonnantes, au début, vraiment, je me disais, ouais, je crois qu'ils vont pas aimer et tout. Et au final, les gens, tu vois, ils rentrent complètement dans le délire parce que peut-être qu'ils savent maintenant aussi ce qu'ils viennent voir.
Mmh.
Mais c'est vrai que si j'arrive dans un truc où il y a des vieux qui sont pas préparés, ça peut être compliqué. Mais en même temps, je me suis toujours dit ça sur les vieux. Putain, il y a des vieux, mais les vieux, on n'a rien à leur apprendre. Tu sais, ils ont tout vécu avant nous, ils savent très bien ce que c'est la vie. Et d'ailleurs, c'est un des trop beaux compliments qu'une dame m'a dit à Lyon. Une dame à la retraite, elle m'a dit, vous savez, je suis à la retraite, mais là, après votre spectacle, j'ai l'impression d'avoir 20 ans.
Oh.
Ouais, donc c'est génial.
Du coup, tu la ken. Mais t'as eu des moments de galère un peu, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est comme si t'arrivais out of the blue et genre t'as France Inter, tu remplis le Marais tout le temps.
Non, jamais. C'est hyper dur, mais encore l'année dernière. Là, quand je rodais encore au Beau-Saint-Martin, mais j'ai joué devant 6.
Ah ouais?
Ouais, devant 8.
Putain, je pensais que ça marchait déjà de ouf.
Non, non, moi, quand on au Beau-Saint-Martin, on me disait on est 25, mais pour moi, c'était l'Olympia. Ah non, j'ai joué tout le long. C'est cette année, ça a marché. Toutes les dernières années, c'était galère. La Petite Loge, quand je suis arrivé à Paris, à La Petite Loge en 2018. Et c'était avant que La Petite Loge, elle ait en plus le vent en poupe. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu stylé. Et puis c'est super parce qu'elles ont fait un super taf, les filles, avec ça. Mais je jouais le jeudi soir à 20h. Tu sors, t'as fait 4 à La Petite Loge. C'est le 28 novembre. Tu vois le bus passer, tu poses des questions, hein. Vraiment, c'est que galère. Et surtout avec un univers comme le mien, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, si les gens rentrent pas, mais alors s'ils sont pas beaucoup, il faut faire.
Il faut qu'ils osent rire, quoi.
C'est ça. Et puis baiser un tabouret devant 4 personnes, ouais, c'est pas le même effet. Hein. Mais non, non, donc c'est maintenant qu'il y a eu un déclic. Maintenant. Et puis même moi, maintenant, sur scène, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je dirais peut-être 3-4 mois où j'ai eu un truc de je m'en bats les couilles si ça marche ou si ça marche pas.
Ah ouais?
Ah ouais, parce qu'à un moment donné, vraiment, je jouais et j'avais ce truc de « Ah, les bâtards, s'ils rigolent pas, vas-y, ça me saoule. » Et je me mets un peu en pilote automatique et je redevenais un peu genre monotone dans ma manière de parler, un peu plus, on va dire, moins agité, quoi. Et maintenant, j'ai un truc où on m'a forcé là-dessus, parce qu'on en a parlé avec Émilie, avec Jérémy aussi, qui m'a donné des super conseils.
Jérémy Ferrari qui te coproduit maintenant.
Exactement. Et on m'a dit... Il m'a dit, il faut que tu t'en battes les couilles. Et en fait, c'est vrai. En fait, maintenant, j'arrive, si même dans les 5 premières minutes, les gens ils se disent « Oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Je lâche pas. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Je continue à garder la même pêche, la même énergie. Et en fait, les gens, ils lâchent. Au bout d'un temps, on se dit « Ah, c'est dur. » Mais en fait, il faut s'accrocher. Et d'un coup, paf, les gens lâchent. Mais c'est vrai que ça m'arrive un peu moins. Mais là, même au Marais, hein, dans le Marais, de temps en temps, on a fait des trucs où c'était bien, où c'était complet et tout. Puis du coup, je partais en mode, tu vois, est-ce que les gens rigolent pas assez? Parce qu'en fait, il y a des gens qui rigolent pas, mais en fait, ils aiment le spectacle. Et moi, ça m'énervait. Parce que tu te compares à quand ça cartonne et tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, il y a un soir, j'ai dit, mais on vous a forcé de venir. Alors là, tu mets une bonne ambiance dans le public. Donc tout ça, j'ai arrêté. Et maintenant, voilà, que ça prenne ou que ça prenne pas dès le début, je lâche pas.
Mmh. T'es arrivé à Paris en 2017-2018?
Les premières fois où je suis venu, c'était avec Charles Nouveau et Thomas Wiesel, 2015-2016. On avait une coloc ensemble à Montreuil.
C'est une web-série, ça.
Ouais, mais en plus, c'est génial, parce que Thomas Wiesel, meilleur coloc du monde, il est jamais là. Donc, il paye pour un grand appartement où dans lequel on est finalement que deux. Et on a passé 7 mois, je pense, avec Charles là. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que les gens jouaient beaucoup à Paris. Parce que je comprenais pas ça. En Suisse, on jouait une fois par mois. J'arrive dans une ville, on joue 4 fois par soir, faut jouer. Et bon, après là, c'était compliqué. On jouait pas 4 fois par soir parce qu'au début, il y a qui tu es, d'où tu viens. Donc tu joues un peu. Puis t'as pas un très bon niveau vu que tu joues pas encore énormément. Donc c'était, on va dire, une première année de rodage. Après, il y avait La Petite Loge. J'avais mon studio et tout ça, rue des Boulets. Voilà, je me dis, bon, ben voilà, logique. Et c'était dur, mais c'est comme ça que t'apprends aussi, j'ai l'impression, ce métier, et c'est là aussi où t'as le temps de creuser dans tes cicatrices et de dire putain, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça, mais si j'en suis là, c'est vraiment, je me faisais des motivational speech tous les jours parce que j'habitais dans un studio de 16 mètres carrés, je jouais dans un théâtre qui faisait 16 mètres carrés, donc, et je préférais être au théâtre parce que chez moi il y avait un dégât des eaux. Donc tu vois, t'es là, tu te dis bon bah vite mec, il faut bosser parce que c'est. Enfin moi j'avais ça quoi. Je disais putain mec, faut... c'est pas possible. J'ai choisi de faire ce métier. Je vois mes potes qui ont continué le droit ou qui ont continué à HEC, qui aujourd'hui sont avocats ou machin. Je peux pas dire moi je fais des blagues et je vis dans la merde. Donc je me suis mis un méga gros boost de 2018 à 2020 où là j'en ai chié quoi. J'ai fait des plateaux. Je courais partout. Et puis bah au fur et à mesure ouais le niveau monte quoi, grimpe.
Et tu dis là c'est là que tu comprends pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais?
Pourquoi je le fais?
Ouais.
Pourquoi je fais ce métier? Je crois que parce que j'ai pas le choix. En fait c'est surtout quand j'étais dans la merde que je me suis dit mais en fait tu fais ça parce que je crois que t'as pas le choix. C'est que la seule chose que tu peux faire parce que si t'acceptes d'être comme ça, dedans, parce que je me suis méga endetté, moi, en Suisse. En Suisse, je suis passé d'indépendant j'ai quitté le truc de salarié, de devenir indépendant. Donc, il y avait plein de taxes qu'il fallait que je paye. Évidemment, j'avais pas d'argent. Plus, on a l'assurance maladie tous les mois que je payais pas parce que je préférais payer un logement à Paris et plus des billets de train. J'ai accumulé 30 000 balles de dette. Donc, j'avais 30 000 balles de dette, plus un appart de merde, plus un truc. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Et en vrai, je me suis dit, mais il n'y a pas de pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que c'est la seule chose que je peux faire, dans laquelle je suis heureux. Je pourrais faire d'autres travails, mais je pourrais faire d'autres jobs, mais je serais pas content. Je sais qu'il y aurait ce truc dans ma tête et je serais pas heureux si je le faisais pas. Donc, je préférais à un moment donné même être dans la merde, etc. et me dire, ben voilà, je fais ça. Et même ma mère me disait, mais arrête et tout, nanana. Je disais, mais je peux pas faire autre chose. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas faire autre chose. Et en vrai, une fois que j'ai accepté le fait de me dire, gars, c'est ta passion, en fait, la scène, c'est ce que t'aimes, le cinéma, c'est ce que t'aimes, quand t'as ça dans ta tête, c'est impossible de retourner sur un autre taf. Impossible. Si je me retrouvais dans un bureau à faire des trucs rédac chef dans une agence de pub, je pense que je me serais flingué. Parce que j'aurais eu ce truc dans ma tête, on me disait, non, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que j'ai tout lâché pour faire ça aussi. C'est parce que je me suis dit, gars, arrête de te mentir à toi-même. Tout petit, déjà, tu voulais être acteur. T'as toujours été bercé par les humoristes. Tu fais ça, tu vois que t'as un potentiel, il suffit que maintenant tu travailles, parce que ça vient pas du jour au lendemain. Donc j'ai dit, bah voilà, je le fais maintenant, il faut que je le fasse maintenant, parce que je voulais pas arriver aussi à 45 ans, avec une femme, des enfants, et dire, chérie, je commence l'impro. Donc,
Jean-Claude.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, je le fais parce que j'ai pas le choix. Je crois que c'est vraiment le seul truc que je peux faire. Bien, et pour être bien dans ma tête, je peux faire plein de trucs, mais si je veux pas me mentir à moi-même, je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est pas de se mentir à soi-même. C'est obligé. Je suis obligé d'être sur scène et essayer de faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
Et si un jour ça te plaît plus?
Ouais, c'est marrant. J'arrive pas à imaginer ça pour l'instant, parce que pour l'instant c'est tellement que du kiff. Mais après, il y a des moments où c'est. Enfin, dans le processus, même, il y a des moments où ça me fait chier. Hein. Mais ça dure quelques heures, peut-être un jour, deux jours.
Quand la chronique est passée, ça va.
Voilà, c'est ça.
Genre le mardi soir, je déteste ma vie.
C'est ça.
Et puis le mercredi, 12h30, ça va.
Exact. Mais c'est vrai que je me suis jamais demandé si tout ça, je sais pas. Parce qu'en fait, en plus, on a choisi un métier qui est tellement. Enfin, il n'y a tellement pas de routine. C'est-à-dire que même si t'as l'habitude de prendre le train, là en tournée par exemple, je dis ouais, je suis toujours dans un train, mais en fait je suis pas toujours dans un train dans la même direction. Et ça qui est marrant,
c'est Marc Lévy ici.
Genre, je me suis préparé les amis, on m'a dit je fais un podcast, il faut que je me prépare. J'ai mes petites notes avec moi. Non mais c'est vrai, je me suis dit en vrai, c'est de la chance quoi. Alors il y a un petit côté commercial où tu vas de ville en ville pour essayer de vendre ton truc. Mais je trouve que c'est marrant parce que tu rencontres plein de gens, c'est pas les mêmes tranches, c'est pas les mêmes accueils, c'est pas la même bouffe, c'est pas les mêmes restos. Donc c'est quand même un truc hyper plaisant, tu vois. Et je pense qu'avoir un truc routinier... Par contre, moi, voilà, au contraire, je parlais de ça avec un pote, j'ai un pote, lui, tu lui casses sa routine, mais il se flingue, quoi. S'il tous les jours de la semaine, il fait pas son truc comme ça, il est mort. Je pense que nous, c'est impossible de...
T'as pas quand même des petits points de chute? Des petits trucs où des fois quand genre t'as une grosse semaine et tu te dis ok ça j'en ai besoin, c'est le truc que je fais souvent, ça me rassure, je me sens bien.
C'est à dire une activité, tu dis?
Ça peut être du sport, ça peut être
le sport, j'en fais beaucoup. Mais le sport, ça rend, c'est ce qui me permet d'être bien aussi, qui m'évite de faire d'autres conneries. Et mais ensuite, c'est ce qui me permet de bien travailler aussi. Je suis bien sur scène, ça me change l'esprit. Mais après, j'ai quand même un truc où je suis quand même obligé de faire la fête. Moi, c'est ça, mon truc où il y a vraiment, de temps en temps, je le compte, quoi. Tu vois, je me dis là, on est le 4. Là, je sais que le 16, on a dit le 16, on faisait la fête. Et donc ça, je sais que, et ça, j'en ai besoin. Si ça, le 16, je fais pas la fête, je suis pas bien.
Mais c'est quoi que t'aimes dans la fête?
Pff, le lâcher prise totale, boire, rigoler, dire n'importe quoi, finir à pas d'heure. Le truc un peu être dans sa bulle, un peu horrible, mais un peu dans ce paradis artificiel dans lequel tu peux avoir des conversations lunaires avec des potes, te dire des trucs que tu dirais jamais sobre, et d'avoir surtout des débats qui n'ont aucun sens quand tu t'en rappelles, si tu t'en rappelles, les lendemains, etc. Mais ça me fait du bien. J'ai l'impression que j'ai comme un petit diable quand même que je dois nourrir de temps en temps parce que sinon il va me ronger de l'intérieur, quoi. Faut que je lui donne ça un peu. Parce que c'est de l'addiction peut-être, hein, mais bon, après, tu vois, j'ai un truc où j'aime bien boire. Et là, j'essaye la semaine de pas boire. Donc c'est déjà, tu vois, donc je compense ça avec le sport. Mais donc, après, ça tire sur la corde quand même. Il y a ce truc de j'ai besoin de remettre. En fait, c'est quand je fais la fête, ça me permet de remettre les compteurs à zéro. Okay. Je m'en remets difficilement, je me remets en bonne santé, et après, c'est un peu une boucle que je fais comme ça. Mais c'est une récompense, quoi, c'est une friandise. C'est une friandise que je donne à mon diable. La fête. Ouais.
C'est marrant parce que tu compenses l'alcool par le sport alors que ça n'apporte pas du tout les mêmes choses, j'ai l'impression.
Alors, non, mais. Mais il y a un état quand même d'euphorie, hein, dans le sport, qui est.
Tu fais quoi, basket?
Non, je fais beaucoup je fais du cross-training.
Oh là là,
je fais des mélanges de muscu, de crossfit. Là, je me suis mis au padel aussi avec des potes. De temps en temps, du foot. Mais ça me fait du bien, ouais. En fait, le fait de... Parce que je pense qu'il y a ce truc aussi où, comme avec l'alcool et les drogues ou n'importe, tu fais vivre quand même un truc intense à ton corps. Bah, le sport, c'est pareil. Et puis moi, quand je sors vraiment d'une séance de sport, je suis comme shooté, quoi. Et je suis bien. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les gens tombent accro à des crossfit ou des trucs comme ça. C'est parce qu'ils deviennent fous de cet état. Et alors, le mieux, c'est quand tu fais du sport juste avant de faire la fête. Ça c'est le top du top. Parce que déjà, tu te sens pas guilty de faire de la merde. Mais en plus, t'arrives à l'apéro, tu pètes la forme. Ça, c'est vraiment mon truc préféré. Faire du sport et ensuite aller me défoncer à la gueule. Ça n'a aucun sens. Je pense que pour la récupération, c'est très mauvais, mais c'est mon truc préféré.
Ok. Ton petit diable, il est musclé en plus.
Ouais, il commence à être gainé, ouais.
Et niveau écriture, tu bosses comment? Est-ce que t'as un peu justement des routines que t'essayes d'avoir ou...
Alors, non, j'ai pour la radio.
Parce que t'as pas le choix.
Ouais, la radio. Et la radio, quand je sais un peu ce qu'il y a, etc., je m'y prends à l'avance. Parce que je... Enfin, mais j'écris petit à petit, quoi. J'essaie de trouver un angle ou j'essaie de trouver, tu vois, vanne après vanne. Parce que si je me mets d'une traite devant un texte, le problème, c'est que de temps en temps, je peux partir dans des prismes où si j'ai pas relu, oula, attention. Donc, j'essaie de m'y mettre un peu à l'avance. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on... Moi, j'arrive pas à me mettre devant un ordi et dire « Allez, je vais écrire ». J'ai l'impression que c'est un truc qui tourne comme ça, quoi. Je peux avoir une idée, d'un coup... Enfin, les notes, tu vois, sur l'iPhone, on est tous blindés de notes, quoi. C'est ta-ta-ta-ta-ta. Et ça, après, je le prends, je retranscris. Et pour la scène, par exemple, je me dis « Bon, je vais raconter cette histoire ». Je prends, j'ai 3 vannes, 4 vannes, ça c'est la chute, et après je laisse la scène parler aussi. Je suis obligé de me laisser
en... Ah, genre t'improvises
Je suis un peu... Ouais. Je me mets parce que quand je suis en état d'autodéfense comme ça, où je sens qu'il faut faire rire, de temps en temps il y a de la spontanéité qui me permet de trouver des trucs que j'aurais jamais trouvé devant un ordi. Et surtout en matière de jeu... J'ai des scènes de jeu dans mon spectacle que j'aurais jamais trouvées en écrivant le truc. C'est que c'est la scène qui m'a aidé à trouver ça. Parce que là, tu te dis, c'est marrant si je shoote là-dedans, si je fais ça, si je me traîne par terre. Ça, c'est des trucs. Jamais devant l'ordi, je me mettrais, entre parenthèses, se traîner par terre. Entre parenthèses, rire. Entre parenthèses, applause. On connaît des gens qui écrivent comme ça.
Bah moi presque. Moi les didascalies je les mets, ouais.
Ah non, tu, dès là, tu sais qu'il y a rire,
mets, non, je mets pas rire et applause, mais je mets les gestes que je dois faire.
Oui. Mais une fois, moi j'étais tombé sur un texte, ça c'était quelqu'un, il y avait c'est marqué rire, et j'étais là, ah, c'est marrant.
Non, ça c'est chaud, quoi.
C'est drôle de se dire que
très
là c'est
très présomptueux.
Un rire. Ouais.
Toi tu sais quand un truc va être marrant ou
non.
Toujours.
J'ai un grand problème avec ça. Il y a des trucs dans lesquels je suis convaincu. Il y a des trucs, ça je me dis, ça c'est sûr, c'est drôle. Mais il y a beaucoup de choses, de temps en temps, je me dis, ah, ça, c'est marrant. Tu vois, il y a beaucoup de trucs où je me dis, les gens rigolent à ça, je m'attends pas. J'ai un mauvais radar humoristique. Mmh. Et ça,
c'est
très con. C'est très, très con. C'est très, très con. Parce que du coup, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Mais c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'aller tout de suite sur scène. Pour que je sache, et c'est en fait, c'est le public qui m'aide à trouver le curseur de ce qui est marrant, ce qui est pas marrant. Parce que si je mets que ce qui est marrant, déjà, moi, ça va être Bresson. mais le public m'aide. Et c'est vrai que la dernière fois, je me dis, putain, c'est quand même... Enfin, je relis des chroniques ou des trucs comme ça, et les gens rigolent à des trucs. Je me dis, mais c'est... Ah bon, ça, c'est drôle. Bah oui, c'est méga drôle. Et c'est vrai que c'est con. Je me dis, putain, tu fais un métier quand même, ça serait bien de savoir ce qui est marrant, ce qui est pas marrant.
T'es un gars Bresson?
Non, mais c'est dans l'humour. Enfin, si tu vois, si je pouvais vraiment faire que des trucs horribles, je pense que je serais cancel en deux secondes.
Je t'avoue, j'aurais pas pensé que t'allais tenir jusqu'ici. Non, mais ça, tu te lâches une phrase là-dessus dans ton spectacle, c'est que tu peux pas faire de capta.
Ben, alors, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de... On peut pas prendre 2 minutes de mon spectacle pour les mettre comme ça sur Internet. C'est pas possible de faire ça. Parce que si on n'est pas dans le bain, sorti du contexte, je
suis nazi.
Je suis mort. Nazi et tout. Je suis tout. Mais c'est ce qui fait aussi que les gens rigolent. C'est parce qu'en fait, je suis autant ça que ça, que ça, que ça, que ça. Donc au final, c'est sûr, il va aller en enfer, mais il était drôle. Mais c'est... Ouais, carrément, je le sais. Et puis en fait, comme c'est en plus... Déjà, mes passages, ils sont longs. C'est quand même des histoires.
C'est des grandes histoires, ouais.
Des grandes histoires. Donc en fait, si tu enlèves 2 minutes, ça n'a plus aucun sens.
Et t'as déjà eu peur d'avoir dit un truc où ça allait trop loin et les gens, ils n'allaient pas capter
Non, j'ai déjà été surpris par des gens qui m'ont dit « Ouais, alors ça... » Et après, je me suis dit peut-être que je l'ai mal dit, parce que c'est pas ce que je veux dire. Mais sinon, non. Non, j'ai jamais eu peur de... Tu vois. Après, c'est souvent les retours, tu vois. Quand on m'a dit, j'ai eu des trucs... oui, alors ça, c'est l'apologie du viol. Alors que, tu vois, j'étais pas du tout... c'était pas du tout mon but, quoi, de faire l'apologie... Enfin, je suis pas là pour faire l'apologie du viol, tu vois. C'est quand même... Je suis là pour faire des blagues. Et puis, en fait, mon but était justement de parler de ça et de montrer à quel point c'est ridicule, à quel point un mec il peut être ridicule dans une situation. À aucun moment, on me sort des trucs de viol. J'avais eu cette histoire sur moi, un sketch où je dis « Laisse-moi rentrer juste 10 fois à une meuf ». Et je le dis au mec, on dit pas ça, machin. Hein. Mais j'ai un violeur, il te demande pas déjà si il peut rentrer juste 10 fois. Et ce qui est drôle, c'est qu'on me reprenait là-dessus. Les gens qui avaient vu le spectacle, ceux qui ont vu le spectacle, rarement ils me disent ça parce que... Mais il y avait des gens qui étaient venus voir le spectacle et à qui j'avais parlé ensuite, qui m'avaient dit « Ouais, c'est le machin, l'apologie du viol. » Donc, on a eu toute cette discussion là-dessus. Et derrière, par contre, quand il y a un mec en soirée qui me retourne de force et qui m'embrasse, ça, le consentement, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que mon consentement à moi, mais si c'est l'autre, tu vois. Et ça, c'est intéressant aussi de voir tout de suite pourquoi on veut tout de suite accuser quelqu'un. Tu vois, et on ne regarde pas aussi lui, si peut-être lui aussi, il a eu des soucis. Donc, c'est intéressant. Au final, je m'en bats les couilles. Je fais ce que j'aime. J'ai l'impression que je dis pas des choses. Tu vois, je suis pas là pour soutenir un discours haineux. Je suis là pour qu'on passe un bon moment sur des histoires qui me sont arrivées, des histoires dans lesquelles je me tourne moi au ridicule. Donc s'il y a une personne vraiment à plaindre là-dedans, c'est moi, c'est pas les autres.
Fair enough.
Voilà.
Il y a tout un fil rouge dans un spectacle avec le fait de vivre des choses et de des fois se retrouver dans des situations complètement absurdes et tout. Ça vient d'où ce truc? Ça vient d'où ce besoin de absolument
de vivre?
Ouais, de vivre des trucs.
Je pense que c'est un mélange. À mon avis, hein, je vais pas chez le psy, je consulte pas, mais je pense qu'il doit y avoir un truc avec mes parents où mon père a vécu énormément de choses, a vécu peut-être 34 vies dans sa vie, tu vois. Il a fait tous les tafs du monde, il a fait 40 000 voyages, il a rencontré 40 000 meufs, il a fait, tu vois. Et ma mère, elle, a vécu une vie plus difficile, surtout dans son enfance, où elle n'était pas aimée dans sa famille, qui était très bloquée, elle, par rapport à son monde. Donc, elle n'avait pas l'opportunité de vivre énormément de trucs. C'est une fois qu'elle est partie de la maison qu'elle s'est épanouie, machin. Mais même après, quand on a grandi sans mon père. Donc, je la voyais, elle était quand même bloquée par un certain truc, pendant que l'autre vivait de ouf. Donc, j'avais ce truc où je disais, tiens, il y en a un qui s'amuse quand même, elle qui galère. Je veux ni être la personne bloquée et je veux pouvoir m'amuser mais en faisant du bien autour de moi. Donc je pense qu'il y avait un truc, un mélange, ça vient de là quoi. Je veux pas souffrir dans ma vie. Je veux pas être bloqué et je veux pouvoir faire tout ce dont j'ai envie de faire. Et surtout en termes de voyage, de relations humaines, de machin. Moi j'ai plein de potes, tu vois. Parce que moi c'est devenu un truc. C'est même par exemple embrasser des mecs en soirée, ça me fait rire. Tu vois, je suis devenu une connasse, quoi. Comme je disais à un pote gay, je dis, je suis une connasse avec des gros bras. Parce que, comme t'as des copines comme ça, bourrées, qui s'embrassent en soirée, ben moi, j'ai commencé à faire ça avec des potes gays. Et puis, j'ai des potes à moi qui me disent, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, on sait pas. Et puis, même, à un moment donné, je franchis un peu le pas dans un truc, un peu en after. Je sentais que ça allait, tu vois, j'aurais pu aller un peu plus loin. Et puis, finalement, mais il y avait ce truc de savoir, est-ce que je peux vraiment désirer un homme ou machin. Donc je me laisse porter par ça, tu vois. Je me dis pas non, c'est pas bien parce qu'on m'a dit que, tu vois, j'irai en enfer ou parce que c'est pas comme ça. On sait pas. Et en plus, les temps changent. Donc en fait, à 20 ans, ce que je faisais à 20 ans, je le fais plus à 30, et je faisais des trucs à 30 que je faisais pas à 20. Et donc je trouve qu'on est en constante évolution. Donc je me refuse rien pour savoir si est-ce que mes goûts ont changé aussi, tu vois. Parce que c'est même, je me disais, quand on parlait de sexe avec des potes, et un pote qui me disait, toi, c'est sûr, tu vas finir avec des mecs, des trans, des trucs. Et je dis, bah, franchement, j'en sais rien. Je dis, mais la vérité, baiser 20 ans en missionnaire, je pense pas. Hein. La levrette, c'est marrant à un moment, mais tu vois, est-ce qu'il y aura pas après des objets qui vont rentrer en compte? Là, je dérive sur le huc, mais c'est vrai que j'ai ce besoin de vivre des choses parce que je... Parce que ça va tellement vite aussi. Putain de merde. Tu vois? Je parlais de ça avec Émilie, notre productrice. Et hier, c'est marrant. Hier, on parlait de ça. Elle me dit, et dire que je t'ai vu au Sentier des Halles il y a quoi? 8 ans? 7 ans? Tu vois? Et j'ai dit, putain, c'est déjà il y a 7 ans, quoi. Et j'ai un peu cette peur, moi.
Cette peur. Mais ça passe trop vite.
Oh, je te jure, ça me fait tellement peur. Ça me fait tellement peur. Rien que là, maintenant, avec les il y a Facebook, il y a les souvenirs. Moi, je vais sur Facebook que pour ça, pour les commentaires des gens, sur des articles au hasard, parce que ça me fait rire, les gens sont fous. Et les souvenirs. Waouh, quand tu vois ta tête. Et là, je vois que je commence à avoir des pas de doigts, tu vois, sur le. Et je vois sur les photos, je dis, regarde, c'est lisse, là. Non, mais vraiment. Et je me dis, putain. Et je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Des statuts Facebook, tu te dis, oh là là, j'ai pensé comme ça il y a 10 ans.
Allez,
supprimez vite. Mais ça va tellement vite. Donc, je pense que j'ai ce besoin aussi de vivre des choses parce que le monde, c'est cliché, mais ça passe trop vite. Ça passe trop vite et on se rend pas compte, quoi. Comme le truc avec les summer body, par exemple. Tu vois, là, je parlais de ça aujourd'hui. Les gens qui se mettent au summer body maintenant, tu vois, c'est mort. C'est mort, ça sert à rien, là. Je vous le dis, si vous écoutez, si ça sort maintenant, c'est fini. Fallait prendre. Parce que et ça va vite. Moi, j'ai commencé une diète en janvier. J'ai pas l'impression, tu vois. Et donc, quand tu réalises tout ça, à quel point tout va trop vite, moi, ça, j'ai peur. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire la fête aussi. Parce que si je fais pas la fête, je me dis, oh, je suis en train de kiffer où là-dedans? Alors, le travail, c'est un kiff, certes.
Mais d'un côté, la fête, ça compresse le temps. Si t'es sous, il y a 4 heures, t'as l'impression que c'est 2 minutes.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, mais je sais pas. Mais mais la fête, c'est aussi dans le sens retrouver ses potes, tu vois, prendre le temps de voir les gens que t'aimes. C'est pas seulement, quand je dis que je fais la fête, c'est pas genre, il faut que je me défonce. Tu vois, c'est vraiment retrouver des gens que j'ai pas vu depuis un moment. Là, c'était quoi, vendredi dernier, on a fait une bouffe avec des potes à Genève. C'est des amis que j'ai depuis 20 ans, plus de 20 ans, certains. Et chacun a des gosses, chacun travaille, machin. Donc, tu sais, il faut s'organiser entre moi qui a la tournée, l'autre qui est machin, l'autre qui a une semaine sur deux parce que c'est déjà la merde. Mais quand on s'est retrouvés, mais c'est le feu. Enfin, tu vois, on est genre, et tout le monde est sobre et tout, mais pour moi, c'est ça la fête déjà, de retrouver des gens et de se dire, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir plus souvent parce que ça va trop vite. Si on va faire des retrouvailles à chaque fois tous les 2 ans ou les machins, c'est. Et en même temps, ça va tellement vite que 2 ans plus tard, je les reverrai, quoi. Mais donc, oui, vivre des choses parce que oh, je sais pas, le temps, ça me, j'ai l'impression que c'est vraiment un compte à rebours violent, quoi. Moi, j'ai peur. Je sais pas toi, mais moi, j'ai peur du temps qui passe.
Moi, je pense que je me rends pas encore trop compte.
Ah ouais.
Je vois maintenant à quel point tout passe vite et. Je sais plus, je pense que c'est dans une série, dans Ted Lasso, que j'entendais ça. Quand t'es petit, le temps paraît plus long parce que genre un an, c'est un neuvième de ta vie. Mmh. Tandis que maintenant, c'est un trentième.
C'est et vrai.
Ça m'a un peu
putain, c'est vrai,
foutu le cafard.
C'est vrai, ça.
Et maintenant, ouais, je vois à quel point tout s'accélère et tout, mais j'ai pas encore trop peur parce qu'il y a des choses, je vois pas comment je pourrais aller plus vite.
Mais ouais. Là, t'as quel âge, toi?
28.
28. Eh ben, c'est marrant. Tu sais, ça, c'est un âge dans lequel moi, je suis bloqué.
Pourquoi?
Je sais pas. J'ai 33 ans, mais pour moi, j'ai 28 ans. Parce que, je sais pas, il y a un truc où j'ai pas réussi à passer le palier. Et surtout que je l'ai pas vu. J'ai pas vu tout ça venir, quoi. Le 33, 31, 32. Quand? Et c'est horrible. Et on m'a dit, c'est connu. On dit, plus tu vieillis, plus ça va vite. Mais c'est abusé. C'est abusé. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année, j'ai 34. What the fuck? Ça fait peur. Et je te jure que je suis bloqué à 28. Je me rappelle de mon anniversaire de mes 28 ans. Le thème, c'était Narcos. Tout le monde était habillé en narcotrafiquant. On avait fait des fajitas et des machins.
Évidemment, ouais. Évidemment.
Voilà, des moustaches, hein, de l'accent partout. Voilà, vraiment une soirée woke. Et je me rappelle ça. Et tu sais que c'est vraiment un des derniers anniversaires qui m'a... Pour ça que je pense que je suis marqué à ça, c'est parce que le reste... Après, les anniversaires, je m'en fiche un peu. Même mes 30 ans, je sais même plus ce que j'ai fait à mes 30 ans.
Et 28 ans, c'est une belle année.
28, moi, j'ai adoré, ouais. Je sais pas, je trouve que c'était bien. Je trouve que c'est...
T'as fait quoi?
Pourquoi?
À 28 ans. Enfin, c'était...
Ah, c'était cool parce que je jouais... on jouait avec Thomas Wiesel. On avait chacun notre spectacle. En parallèle, on jouait avec Thomas Wiesel dans une revue à Genève. C'est un spectacle cabaret qui mélange sketch, chanson et dans lequel ils avaient mis 10 minutes de stand-up. Ah bah, d'ailleurs... D'ailleurs, je devais jouer le lendemain de mon anniversaire. Et moi, j'avais dit à l'avance, parce qu'on avait le planning, tout est carré, c'est un truc, c'est une industrie, hein, tu peux pas planter, tu peux pas machin. Et j'ai dit, quand on reçoit les dates en début septembre, j'ai dit, les gars, 21 novembre, je peux pas, c'est mon anniversaire la veille, franchement, je vous le dis, je vais pas être bien, en plus, le dimanche, tu joues à 16h. Non, et tout. Et puis finalement, personne ne peut, donc je dois y aller. J'y suis allé dans un état, j'ai pas dormi.
T'es en after, là?
Un after. J'étais à 14h30 dans un after. Et un pote me dit, Alex, mais t'as pas un spectacle? Maman, au secours. Et je cours là-bas avec quelques vitamines en plus qu'on m'a glissé dans la poche. Et on me dit, pour prendre où t'en es, que j'arrive là-bas, j'ai des sueurs, je mets mon smoking, je suis là, kiff. Et là, tu te regardes. Et ça aussi, c'est pour ça que j'aime bien la défense, c'est parce que ça, je me dis, regarde, c'est pas bien de faire ça. Et après, je me calme, tu vois. En fait, je fais ça et après, je me calme. Et je me dis, quel fils de pute je suis, j'aurais pu quand même dormir et tout, machin. Oh, là, je mets mon smoking, je transpire. Je passe dans les toilettes un petit coup, je reviens, machin, je me mets dans les... Il y avait des escaliers à descendre. Parce que c'était... Voilà, je me concentre pour descendre. En plus, c'est un texte où je fais des blagues politiques devant des vieux, un 16h le dimanche. Donc, tu joues devant des vieux qui sont en pleine digestion. Normalement, le passage, il fait 9 minutes. Hein. Mais tellement j'étais défoncé que je devais parler comme ça. J'ai fait 18 minutes, je crois. Les gars, on enregistre, c'était le mec. Défoncé.
Mais ils ont ri, quoi.
Ils ont ri, mais c'était beaucoup trop long. Les danseuses, elles attendaient. Normalement, je suis là pour faire... On faisait tampon, quoi. Le temps que les comédiens se changent, ils avaient le temps de prendre un café et tout. Et c'est la seule fois, d'ailleurs, que j'ai joué vraiment défoncé.
Comment tu fais, d'ailleurs, pour pour faire autant la fête et tout et quand même pouvoir jouer très souvent, machin, ça demande
quand je joue et tout, là, je fais pas la fête. Par exemple, tu vois, là, j'étais en tournée, machin, je fais pas la fête. Je joue, je rentre...
Okay.
C'est fini. Pour ça que je me dis là je joue pas, là maintenant je peux. Je me suis quand même vachement responsabilisé là-dessus et en vrai tu peux pas faire ça et en plus j'ai arrêté de sortir pour sortir. Avant j'avais ce truc de ouais on sort quoi qu'il arrive on sort. En fait à force de l'avoir fait je trouve ça tellement nul. En plus tu vas dans les mêmes lieux, tu vois les mêmes gueules, tu te dis non mais moi je suis pas. Puis un peu un truc, moi je suis pas lui.
Et lui il se dit pareil de toi.
Ouais. Et moi, je veux pas être comme ça, donc vous allez plus me voir, les gars. Donc, je me suis vachement responsabilisé là-dessus. Et ouais, là, c'est vrai que quand tu pars, tu joues 5 soirs de suite, 4 soirs de suite, même 3 soirs de suite, tu peux pas. Et le lendemain, tu dois prendre un train. J'en ai pris tellement des trains dans des mauvais états que maintenant, quand je prends le train et tu sais que j'ouvre mon ordi et que je bosse, bah, là, je me sens tellement professionnel.
Tu es un prince.
Ah ouais. Et en plus, je kiffe, t'es là, t'entends que dans 30 minutes, on arrive à Genève. T'es là, quoi? Ça fait déjà 2h30 qu'on... Oh là là, j'ai pas vu le temps passer, j'ai fini ma chronique. Quel patron. Et maintenant, je kiffe là-dedans, tu vois. Je kiffe là-dedans. Donc la fête, c'était bien à un moment. La fête, c'est toujours bien. Mais voilà, il faut savoir, là, faut savoir se responsabiliser quand même, quoi.
Et à force de vouloir vivre des choses et tout, t'as pas peur de te lasser des choses banales?
Bah ça, oui. Hein. Ça fait un peu peur, ouais. Mais c'est pour ça que je sais pas. Mais je me suis dit... Bah après, banal, c'est dans quel sens, banal? La vie de tous les jours, comme ça?
Pas, ouais, juste, tu passes la soirée chez toi, t'es comme, putain, bon ben... J'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais? Tu peux plus apprécier juste être avec des gens normaux. mais non, ouais, mais tu vois.
Je sens pas qu'avec des gremlins, c'est des.
Non, des gens genre calmes, oui, tu vois, ou juste vas-y, on est posé, on
se bah non, dîner, mais ça fait du bien justement, parce que tu vois, bah, si je faisais ça tous les soirs, je deviendrais fou, mais tu vois, si un soir je vais dîner chez des amis qui sont calmes et posés et tout, ça me fait plaisir. Mais après, c'est. J'ai pas la peur de. D'une vie banale, j'ai la peur, surtout avec le temps qui passe, j'ai la peur de devenir vieux d'un coup. Et parce qu'en fait, je me vois vieux, mais j'arrive pas à imaginer le cadre autour de moi. Tu vois, genre je me vois les cheveux grisonnants et tout ça, mais j'arrive pas à voir dans quoi je suis. Si je suis dans un studio, si je suis dans un appart, si je suis dans une maison, ça m'angoisse un peu. Ouais. Donc je me lasse pas, j'ai pas cette peur de la vie machin, mais j'ai la peur de où ça va me mener.
Et t'as peur de manquer quoi?
Je sais pas, l'argent j'ai peur. J'aimerais gagner beaucoup d'argent, ça je le cache pas, parce qu'aussi quand t'as eu un manque d'argent, y a des gens qui me disent ouais mais c'est pas tout. Ouah.
Non mais ça t'apporte la sécurité pour partir. Ah
oui,
le reste,
bien
quoi.
Sûr. Moi j'ai vu ça avec ma mère. J'ai commencé à travailler très jeune. Dès que j'ai pu, à 16 ans, à l'âge légal en Suisse, 16 ans, je bossais. Côté des cours, je faisais du ménage. Après j'étais vendeur. Après j'étais machin tout le temps à côté des cours. Donc t'es obligé. C'est une de mes peurs dans la vie, c'est de manquer d'argent. Et en même temps j'adore flamber, putain, tu vois. Et ça c'est mon putain de côté tunisien. Ça c'est le côté du père et le côté sage c'est le côté de ma mère quoi, donc je suis un peu un mélange de ces deux où je dis ouais il faut quand même tu prévois.
Tu flambes dans quoi?
J'aime beaucoup inviter mes potes. Après je peux avoir des petits caprices quoi, des petits trucs de je m'attendais pas, je me dis si je rentrais chez Gucci. c'est juste pour jeter un œil, tu vois, et après tu testes un truc, tu dis ah, c'est cher, mais c'est quand même, je comprends pourquoi c'est cher, tu vois. Et alors, autant maintenant, par exemple, les sapes, j'étais pas du tout comme ça, hein. Mais je commence un peu plus à aimer les habits. Et alors, surtout, je déteste tout ce qui est, les Zara, les trucs machin, j'y vais plus.
Ouais, la fast fashion.
Ah, ça, je vais plus du tout. Donc, tu vois, maintenant, même je me dis, ok, tu claques, mais je préfère mettre, tu vois, allez, je vais mettre 800 balles dans un truc. Mais au moins, voilà, je sais que ça a été fait en Italie ou en France ou machin. Mais c'est vrai que la fast fashion, Zara, tout ça, je peux plus mettre les pieds, quoi. Ça m'a tellement dégoûté, tous ces reportages que j'ai vus et tout ça. J'ai dit, là, c'est très grave, en fait, si je... Et je trouve ça fou, hein. Toujours aujourd'hui que les gens aillent normal.
Ouais.
Je trouve ça fou. Surtout pour des trucs qu'on va jeter...
Ouais, qui vont durer...
C'est ça qui est horrible. Donc non, je peux claquer là-dedans, ouais. Je peux claquer les restos. J'ai ce putain de truc de mon père, quoi. J'invite, quoi. C'est des trucs de tu te prends pour un seigneur... Mais ouais, j'aime bien. Après, je suis pas un grand claqueur, mais quand je claque, ça claque. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire. D'ailleurs, il y a des gens qui vont se dire, ouais, t'es un ouf, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont claqué 100 balles là, 150 balles là. Moi, c'est clair que d'un coup, je peux mettre 1000 balles, parce qu'on a fait un resto, que j'ai invité mes potes, et qu'après, on est sortis, j'ai payé une bouteille. Mais voilà, c'est 1000 balles, et puis c'est 1000 balles, et puis pendant 3 semaines, je vais rien gaspiller, tu vois. Alors que eux, en 3 semaines, ils ont acheté 3 t-shirts, une paire de baskets, machin. Donc voilà.
T'as confiance en toi aujourd'hui?
Un peu plus, ouais. Un peu plus. Mais j'ai pas une grande confiance. Enfin, je suis pas un mec très confiant. Je dirais même peut-être que je suis timide, mais parce qu'on me voit sur scène comme ça très confiant, mais en vrai, tu vois, même quand j'arrive devant des gens que je ne connais pas, je suis pas du tout le mec qui fait le malin, qui fait des vannes. Il y a des gens comme ça. Je trouve ça très fort. D'arriver sans complexe, de parler, machin. Si je connais pas les gens, en fait, je suis tellement observateur au début que j'ouvre pas ma gueule. Mais après, je sais pas si c'est un manque de confiance. Aujourd'hui, j'ai un peu plus confiance parce que déjà, j'ai payé mes dettes. Parce que j'ai des gens qui me disent que c'est super ce que je fais. Et parce que j'ai un retour des gens qui me donnent confiance en moi, ouais. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi. D'un truc où on me dit, mec, c'est bien ce que tu fais. Parce que moi, ma mère, par exemple, elle m'a jamais dit ça. Parce qu'elle vient d'une famille où elle était délaissée complètement. Donc, même là, quand elle. Mais là, c'était quoi, la dernière fois que je l'ai vue? Je lui ai dit, bon, bah, j'y vais. Elle me fait, bon, bah, on me fait la bise. Parce qu'elle a un accent polonais. Mais elle le dit en rigolant, parce qu'elle n'a jamais fait ça. Donc, elle me fait la bise et elle rigole. Elle dit, oui, parce que je vois, tu fais la bise avec tout le monde. Bon, bah, là, il faut qu'on fasse la bise, nous aussi. Mais elle m'a jamais, tu vois, c'est pour être là, elle est fière. Ma mère, elle est fière de moi maintenant. Mais aussi, j'étais un con au lycée, au collège et tout ça. Donc mon comportement un peu crapuleux, plus le manque de, tu vois, d'empathie. Ça aussi, j'ai un manque d'empathie. Je pense que c'est aussi de ma mère, tu vois, les gens qui me parlent de leurs problèmes ou machin. C'est pour ça qu'en vrai, je te dis, je fais jamais de podcast, etc. C'est parce que écouter les problèmes des gens, alors je m'en bats les couilles. Et là, si vous nous écoutez, vous dites, bon, c'est le con. Bah ouais, mais voilà. Je le fais parce que c'est Fanny, c'est une pote, c'est ma pote. Et parce que le podcast est super, mais il paraît. Mais.
je m'attendais, je me disais, c'est les mythos.
Mais ouais, bah, bien sûr. Non, mais parce que je te jure, moi, j'ai un truc. Ma mère, elle a jamais eu ça, quoi. Ma mère, c'était, tu sais, j'avais un problème. C'était, bah, ferme la gueule et avance, tu vois. Tu sais, tu fais ton truc. Tu as des problèmes, t'en auras toute ta vie. Hein. Si là, t'as un problème, faut pas t'arrêter là. Hein. Faut continuer. Le problème, c'est que c'est pas une bonne méthode parce qu'après, les problèmes, ça reste dans la tête. Et après, t'as beaucoup de trucs où, au bout d'un moment, en fait, il y a plein de choses que t'as pas réglées au bon moment. Et là, tu craques. Là, tu peux avoir des trucs où.
Je pensais pas du tout que c'était comme ça avec ta mère. Moi, j'avais l'impression que vous étiez hyper fusionnel. Parce que quand t'as dit confinement, je suis retournée à Genève, je l'ai vécu avec ma mère.
Ouais, ouais.
Je m'attendais à ce que du coup vous soyez.
Non, mais là, maintenant, oui, mais maintenant, on a un truc de presque de pote, quoi. On est. C'est ma mère, hein, c'est sûr. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais c'est vrai que quand je comparais déjà à l'époque, quand je voyais mes potes, comment leur maman était et comment ma maman était. C'est fou, tu vois. Moi, j'avais mon pote portugais, sa mère, c'est l'amour sur terre, quoi. J'arrivais, elle me proposait tout de suite des croque-monsieur. Et tu veux du coca et ça, machin, ça va, comment ça va, maman, comment ça va. Ma mère, c'était, ok, bon, ferme la porte. Tu sais, rien à foutre. Rien à foutre de mes amis, de mes machins. Après, elle est comme ça, mais en fait, quand elle s'intéresse vraiment aux gens, elle devient très. Elle s'attache très vite. Genre, j'ai un cercle d'amis à moi, elle les adore, quoi. Mais pour qu'elle dise, je t'adore. Oh, tu peux pas attendre longtemps. Bah, je pense que j'ai attendu 31 ans. Ouais. 31 ans.
Maintenant que t'es genre tout casé et tout, est-ce que raconter les dingueries que t'as fait dans le spectacle, il n'y a pas un peu une dissonance avec qui tu es et qui tu aspires à être?
Non, parce que les gens savent. Parce que les gens ne savent pas. Et puis les gens, en fait, les gens, même s'ils se disent, ah, peut-être qu'il est casé ou il est machin. Mais en fait, on n'en sait pas. Peut-être qu'il est casé, mais peut-être qu'il est libre. Peut-être qu'il est, tu vois. Donc, en fait, puis surtout avec ce que je raconte, les gens, à la fin, ils se disent, bon, bah, ça se trouve, il est casé, mais en fait, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Et puis, ça se trouve, c'est comme ça les termes. Et voilà, et c'est ça le contrat, et il n'y a rien à respecter. Donc, en fait, non, je m'étais posé la question. Mais en fait, je me suis dit non, parce que comme je parle du HUC à 360 degrés, et que, bah, on se dit bah, que ça pourrait être possible, quoi, tu vois, que je sois complètement libre et free, ouais.
Libre et free.
Et free.
Oh là là.
À l'international.
Quel mec. Stand-up ou cinéma, tu choisis le cinéma?
Bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est deux trucs que j'adore. Mais le cinéma. En fait, le cinéma, c'est mon vrai rêve d'enfant. Et que je n'ai pas encore. Que j'ai pas encore vraiment réalisé, tu vois. Donc je pense que c'est le fait que je ne l'ai pas réalisé ou que j'en fasse pas qui fait que je choisis cinéma, parce que c'est comme
ouais, un... c'est la femme mariée quoi.
Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme un voilà, le truc de je pourrais jamais m'en séparer parce que c'est quand même fou d'arriver devant des gens que tu ne connais pas, de raconter tes conneries, que les gens rigolent. Enfin, j'en reviens toujours pas. Tu vois, même force de répéter le spectacle, de temps en temps, tu joues le quatrième fois de suite dans la semaine, tu retournes au théâtre, tu te remets tes blagues, c'est tout. Et en fait, tu arrives sur scène, t'oublies ce truc de répétition parce que les rires, c'est pas les mêmes. Puis cette dose d'amour que t'as en direct, que tu n'as pas au cinéma, ça, je pourrais... Donc je pense que oui, le cinéma, c'est parce que c'est un fantasme.
Et qu'est-ce que t'aimes là-dedans ?
Dans le cinéma ?
Ouais.
J'ai tellement aimé de films que je pense que ce que j'aime... Parce qu'en vrai, c'est chiant, hein, les tournages que tu fais et tout. T'attends plus que tu tournes. T'as des horaires pas possibles pour le peu que tu tournes. Ce que j'aime là-dedans... Je sais pas ce que j'aime là-dedans. Je crois que c'est... Mais je crois que c'est parce que ça fait partie de ce truc de rêve de... Depuis tout petit, tu vois, j'étais fan d'acteurs américains, gaulés, comme des dieux. Parce que bon, je regardais Rocky Balboa, j'adorais ça. Mais donc je pense qu'il y a un fantasme d'arriver à ce niveau-là, de se dire toi-même, oh regarde, tu fais du cinéma un peu comme ceux que t'admirais à l'époque. Mais après, en rendu, je sais pas, parce que je déteste me regarder. Donc c'est bizarre. Je pense qu'en fait, je ferai des films, si un jour je fais des films, et je sais même pas si j'arriverai à, tu vois. Genre le court-métrage avec Marina, je l'ai regardé, mais genre j'ai...
Ah, il était top, hein.
Ouais, l'histoire était super et la réelle était ouf, mais c'est vrai que c'est dur à regarder, hein. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment du mal à encore m'entendre. Au début, on a de la peine à s'entendre, m'entendre, maintenant, je peux. Mais me regarder, Donc, c'est vrai que c'est bizarre de faire... Tu dis, qu'est-ce que j'aime, le cinéma? Je sais pas, mais je trouve qu'un bon film, en fait, c'est surtout le fait... tu regardes un bon film, il y a quand même un truc... Tu sors, t'es content, quoi. Ça, tu te dis, waouh, c'est beau qu'on puisse raconter ça. Là, j'ai eu ça avec... c'était quoi? Avec L'Innocent. Je sais pas si tu l'as vu, le film de Louis Garrel. C'est un film réalisé tout simplement, ça se voit qu'il n'y a pas un gros budget, je pense, derrière. Putain, tu le finis, t'es bien, quoi. Tu sais, t'es content, il y a du rire, il y a de l'émotion, il y a un truc... que tu n'as pas forcément dans un spectacle d'humour, tu vois. Donc je pense que c'est ça, c'est le chercher aussi d'autres émotions. Parce qu'attention, si je veux faire du cinéma, je veux pas faire des comédies, je veux pas faire que de la comédie.
T'es pas frustré des fois de devoir faire rire les gens dès que tu parles, vu que ton métier c'est toujours ça.
Ouais, ça c'est lourd. Ça, en fait, tu sais plus trop après comment doser le curseur. Là, comme quand t'es invité sur des plateaux télé ou des trucs comme ça, tu sais pas trop. Et en temps, je déteste les gens que tu sens qui sont là pour faire des blagues, des blagues, des blagues. Donc ouais, et après le pire c'est mais en fait t'es pas si marrant que ça quoi. Ouais. Alors ça c'est le pire, c'est dans la vie privée quoi. C'est quand on dit en fait t'es pas marrant, tu dis ferme ta gueule, t'as payé. Ouais, c'est ça. Tu payes, je te fais des blagues. Donc oui, être le bouffon un peu de service, ah, allez, il y a Alex qui arrive, il va nous faire marrer alors que t'as pas du tout en fait. Non.
C'est quoi dont t'es le plus fier ?
Le truc dont je suis le plus fier. Je sais pas. Je dirais moi, je pense. Franchement, hein. Parce que je pense. Moi, dans le sens de tout ce que j'ai fait. Parce que les gens se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte des sacrifices qu'on peut faire. Ça peut paraître présomptueux, hein, mais je m'en bats les couilles. Je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Le fait de se dire je me lance là-dedans, j'accumule des pressions, des dettes, je rends pas forcément les gens hyper heureux autour de moi, il y a plein de gens qui disent mais gars, il y a des millions de personnes qui veulent faire ça, qu'est-ce que tu fais, bla bla bla, et là quand ça commence à maintenant un petit peu à remplir et tout, tu vois des gens qui sont là mais de toute façon gars c'était sûr. Ah oh, les fils de pute. Ah ouais, ben franchement, je t'ai dit... Parce que là, j'ai eu ça récemment, donc je peux te dire, ouais. C'est le parcours. Je suis pas fier de moi, je suis fier de mon parcours. Voilà, le parcours que j'ai fait, je peux en être très fier. Je suis très fier de ça, je suis très fier de travailler avec l'équipe avec laquelle je travaille. C'est fou, tu vois, bah, quand on me parlait d'Emilie, tu vois. Emilie, j'ai connu, pour moi, c'était ouais, la grande productrice, tu vois, machin, nan, nan. Ferrari qui remplit des zéniths, des trucs, et qui a monté son truc avec son associé, une boîte de dingue et tout, machin. Je me dis, bah, mais non, je bosse avec des gens comme ça. Bah, je suis fier de ça aussi, quoi. Tu vois, c'est ouf. À un moment donné, je me suis dit, gars, c'est ouf. Donc, surtout vous, maintenant, ne foire pas. Donc, c'est une nouvelle étape que tu arrives. C'est ça qui est aussi drôle. Et c'est pour ça que c'est un métier intéressant. C'est qu'on fait plein de trucs pour arriver à un certain niveau. Et après, à un certain niveau, bah, il faut pas foirer, il faut montrer tes preuves. Et puis, en plus, ce niveau, tu as vite envie de le dépasser aussi. Donc, il y a un truc un peu... C'est ça qui est bien, c'est que tu as toujours des nouvelles aventures, des nouvelles galères, des nouveaux trucs qui rend ce métier tellement palassant. Et c'est ça qui est excitant, quoi. C'est vrai que c'est intense, émotionnellement, financièrement, physiquement. C'est pour ça que le petit monstre, au fond de moi, je suis obligé de le nourrir de temps en temps. Il faut qu'il prenne sa dose et puis et après, je suis reparti en piste. Voilà.
Merci Alex.
Merci à toi Fadi.
J'espère que cet épisode vous a plu. Alexandre Cominec est en spectacle un peu partout. Il reviendra à Paris en septembre au Théâtre du Gymnase. Je mets le lien de réservation dans la description. Et j'y glisse également tous les endroits où suivre Alex sur les réseaux. Et puis comme toujours, je rappelle que vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux, @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, voire à le soutenir financièrement via Acast ou Patreon. Tous les liens sont en description. Des bisous. Et cet épisode, bien sûr, a été mixé par le fabuleux Maxime Wathieu.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.